Chapitre 6. Pendant que s'achevait le dîner de Madelon, Gaston Chamontin, le duc de Paradan et leur ami étaient restés debout, ne trouvant pas une place à prendre. Mais, dans l'entracte, on leur apporta des chaises de chez le marchand de vin et ils purent s'asseoir, aussi mal installés que possible, dans un coin, contre la muraille humide. « Ça a été vraiment une bien bonne idée de venir à ce théâtre, » dit le duc. « Bacholet n'a que de bonnes idées, » appuya Gaston en riant. « Et il fait un froid dans cette grange, » continua le duc en serrant sa pelisse contre son torse maigre. « Jamais Bacholet ne se plaindra du froid, » dit Gaston. « Parce que ?» demanda le duc. « Parce que plus il fera froid aujourd'hui, plus il y aura de chance pour que la fête du cercle des patineurs ait lieu demain. C'est bien naturel. » « C'est bien naturel » était l'explication même du caractère de Bacholet, qui ne vivait que pour s'amuser, et surtout pour que le tout Paris sût qu'il s'amusait. Quelle déception pour lui si la fête du lendemain, dont il était l'un des organisateurs et des commissaires, n'avait pas lieu par suite du dégel. Héritier à 22 ans d'un père qui, dans la fabrication des matières colorantes, avait gagné une des grosses fortunes de l'industrie parisienne, Bacholet employait les revenus de cette fortune à faire parler de lui. Voir son nom imprimé dans les journaux mondains était tout, il ne désirait et même il n'imaginait rien au-delà de cette gloire. C'était pour l'acquérir qu'il avait à Compiègne un équipage de chasse qui lui coûtait 200 000 francs par an, à Chantilly une écurie de course qui ne lui coûtait pas moins, et à Paris, une maîtresse qu'il n'aimait point, mais qui avait le mérite d'être une des célébrités de la vieille garde et de jouir en cette qualité d'une notoriété qui rejaillissait sur lui, l'amant d'Agnès Manenc, une Agnès de 50 ans qui jouait encore à la ville « Le petit chat est mort ». Cela ne lui suffisait point et il demandait au tir au pigeon, à l'escrime, au cercle des patineurs, à un cirque où il s'exhibait avec des bêtes savantes, ce que les courses, la chasse et la maîtresse ne lui donnaient point. Personne n'était plus aimable, plus affable, plus généreux pour les reporters que lui. Quand les occasions d'être témoin dans un duel lui manquaient, bien qu'il eût naturellement le caractère le plus facile et le plus doux, il cherchait lui-même une affaire, pour rien, pour le plaisir non de se battre, mais de se faire de la publicité qui ne lui venait pas spontanément. Pour être sûr de ne pas laisser échapper un journal qu'il aurait nommé, il était abonné à l'Argus de la presse, qui lit, découpe et traduit tous les journaux du monde et en fournit les extraits sur n'importe quel sujet. Le sujet, c'était lui, Bacholet. En était-il de plus intéressant? Il ne le trouvait pas. Et même, il était jaloux de ceux dont on parlait trop souvent, il les appelait des réclamistes et les méprisait. L'entracte ne fut pas long, car le premier tableau d'il y a 16 ans se jouait dans le même décor que le dîner de Madelon. À la vérité, dans le vaudeville, le théâtre représente une chambre simplement meublée, tandis que, dans le drame, il représente un joli boudoir élégamment meublé. Mais chez les Duchâtelier, on n'y regardait pas de si près. Une chambre ou un boudoir, c'était un intérieur, et il n'y avait qu'une décoration pour les palais, qu'une aussi pour les places publiques, les sites champêtres, les cachots et les forêts. Le décorateur qui les avait peints avait reçu la commande de les faire à ses indécis pour qu'ils puissent, avec un peu de bonne volonté, servir à toutes les situations et n'être d'aucune époque ni d'aucun pays. Le rideau se leva donc sur la chambre de M. Benoît, devenu le boudoir d'Amélie de Clerville. Madame Duchâtelier, Amélie, était assise devant une table de toilette et Joséphine, sa femme de chambre, Marietta, achevait d'arranger ses cheveux et de lui mettre quelques bijoux. « Mais c'est la vieille femme de la caisse qui joue la chaste fiancée !» s'écria le duc. « Silence dans le coin !» cria une voix. « Taisez-vous donc, les peaux d'ours !» cria un autre. Le duc se mit à rire en regardant la salle dédaigneusement. La porte du fond s'ouvrit et un jeune garçon parut, en costume léger du matin, portant à la main une rose sur laquelle était attaché un papillon, il entre avec la vivacité de son âge. « Tiens, c'est une femme !» dit Bacholet. « Elle est charmante !» répondit Gaston. Puis, s'interrompant, il se retourna et s'adressant à la pharmacienne, qui justement était placée derrière lui, poliment, il lui demanda quelle était cette jeune fille. « C'est Zite, la fille du directeur !» répondit Madame Legrand, flattée de la déférence que Gaston lui avait montrée en homme du monde qui s'adresse à une femme du monde, raconta-t-elle plus tard. Dans la pièce originale telle qu'elle a été écrite par Ducange, Joséphine, qui a l'autorité d'une vieille femme de chambre, gronde ce jeune indiscret d'entrer comme un fou quand Mademoiselle s'habille. Mais dans la pièce réécrite par Duchâtelier et mise à la mode du jour, le rôle avait été adapté autant que possible pour être joué par Marietta et toutes les gronderies de la vieille fille avaient disparu. C'était en effet par coupure qu'il procédait généralement et tout ce que sa troupe ne pouvait pas dire ou ne pouvait pas faire, il le supprimait. Le public s'y reconnaissait comme il le pouvait. Dans « Il y a 16 ans », on trouve une vingtaine de rôles d'hommes et de femmes. Comment, avec les 5 hommes et les 3 femmes qui composaient la troupe du théâtre du Châtelier, jouer ces 20 rôles? Cela eût été une difficulté pour un directeur qui n'eût pas été en même temps auteur. Pour du Châtelier, rien de plus simple. L'auteur intervenait et rendait le service à son ami le directeur de lui supprimer les rôles pour lesquels celui-ci n'avait pas de sujet. Quand cette suppression était tout à fait impossible, le comédien qui mourait au deuxième acte ressuscitait au troisième dans un nouveau personnage. Une perruque et un autre costume opéraient cette incarnation. Ainsi, le père Lachapelle, englouti comme Jérôme au troisième tableau avec le pont du torrent, apparaissait au quatrième comme maire du village. Et personne ne se plaignait, au contraire. On discutait dans lequel des deux personnages, Lachapelle était le meilleur. Certainement, il était bien touchant dans le vieux Jérôme, mais d'autre part, comme il s'excusait convenablement d'apporter un instant de trouble au milieu d'une fête d'hymen, et comme il faisait comprendre cette phrase extraordinaire du père de la mariée, votre visite nous honore et ne peut nous inquiéter. De même pour Madame Duchâtelier, qui remplissait deux rôles, on discutait la question de savoir lequel lui convenait le mieux, celui d'Amélie, la fiancée de Saint-Val, en perruque blonde, ou celui de Madame Thomas, en perruque grise. En réalité, elle était aussi mauvaise dans l'un que dans l'autre, avec la même intonation pour la femme du monde que pour la villageoise, et avec le même geste de marionnette qui consistait à agiter sa main droite ouverte et les doigts réunis, en allant de son épaule à son menton comme si elle coupait quelque chose, tout le reste de son corps ainsi que son bras gauche demeurant immobile. C'était vainement que son mari lui avait demandé de lever cette main au moins aussi haut que la tête et d'étendre le bras dans toute sa longueur. Jamais elle n'avait osé risquer en public cette mimique désordonnée. Qu'eût-elle fait de son bras si elle l'avait étendu à une telle distance? Elle n'aurait jamais pu le ramener à elle. C'était bon pour M. Duchâtelier d'agiter ses bras comme les ailes d'un moulin à vent, mais il était un grand comédien, tandis qu'elle n'était qu'une pauvre femme qui jouait la comédie malgré elle. « Quel singulier pantin !» dit le duc quand il vit Madame Duchâtelier hacher ainsi tous ses mots. « Oui, mais la fille est gracieuse, » répondit Bachelet. « Dites qu'elle est ravissante, » continua Gaston. « Je n'ai jamais entendu voix plus pénétrante, et elle joue, est-ce curieux, ici. » Il est vrai que Zite jouait et qu'elle mettait dans son rôle tout ce qu'il y avait en elle. Quand Madame Duchâtelier, abandonnant la caisse pour s'habiller, avait annoncé que le fils Chamontin et le duc de Paradan venaient d'entrer dans la salle, cette nouvelle avait révolutionné les coulisses. « Quelle chance nous avons de jouer aujourd'hui, il y a 16 ans !» s'écria Duchâtelier. « Une pièce où je me montre en habit de conseiller d'État et avec l'épée. Marietta, donne-moi tous mes bijoux et toutes mes décorations. » Duchâtelier n'avait pas eu une seconde d'hésitation en recevant cette bonne nouvelle. Ces gens du monde venaient pour lui. Sa réputation était arrivée jusqu'à eux et, profitant de l'heureuse occasion qu'il amenait près de leur château, il voulait savoir à quoi s'en tenir sur ce fameux Duchâtelier qui... Eh bien, ils allaient voir. Plus jeune, et par cela même moins disposée à se griser de sa gloire, Zite ne s'était point dit que ces gens du monde venaient pour elle, mais cependant, à la pensée de jouer devant eux, elle éprouvait une émotion qu'elle n'avait pas devant son public ordinaire. Un duc, le fils Chamontin, elle n'avait jamais joué devant un duc. Aussi se donnait-elle tout entière à son rôle. Si démodé que soit aujourd'hui ce vieux mélodrame, si gros d'invraisemblance qu'en soit la fable, et le développement, si ridicule surtout qu'en soit l'enflure du style, il n'en renferme pas moins deux rôles, celui de la mère et celui du fils, qui, comme le disait Théodore, sont du théâtre. À la vérité, on pouvait très bien ne pas s'en apercevoir en voyant Madame du Châtelier jouer le sien, tant la pauvre femme avait peu l'instinct de la scène. Mais avec Zite, comédienne des pieds à la tête, il en était autrement pour le rôle de Félix. Depuis 4 ans que son père lui avait donné ce rôle, elle l'avait étudié avec la chapelle, ce qui est encore la meilleure méthode pour un esprit perfectible, et elle y mettait maintenant, avec la vivacité juvénile qu'elle avait su garder, une tendresse de cœur, une profondeur d'émotion, un charme, une douceur que la musique de sa voix et son sourire insondable, à la fois gai et mélancolique, rendaient tout à fait saisissant. « Mais elle a du talent !» s'écria Gaston. « C'est une comédienne !» Zite n'était pas seule à remarquer l'effet qu'elle produisait sur les jeunes gens. En scène, Madame du Châtelier, La Chapelle et Marietta le remarquaient comme elle, et dans la coulisse, Joseph le remarquait aussi. Dans le théâtre du Châtelier, le trou du souffleur n'existait pas, on soufflait de la coulisse comme sur la scène anglaise, et le personnel étant peu nombreux, c'était celui des comédiens qui ne jouaient point, qui s'acquittait de cette tâche, comme c'était lui aussi qui manœuvrait le rideau. Chargé du rôle de Chambord, le chef des incendiaires, Joseph ne paraissait qu'au troisième tableau, et pendant les premiers, il soufflait. De la coulisse de droite où il était assis, il voyait donc le groupe des jeunes gens placés au coin gauche de la salle, presque en face de lui, et il n'avait pas pu ne pas être frappé de la façon dont il s'occupait de Zite. En apprenant qu'ils étaient dans la salle, il ne s'était point dit, comme du Châtelier et comme Théodore, qu'il venait pour lui, mais, avec sa jalousie toujours inquiète, il s'était demandé s'il ne venait point pour Zite. Au regard que Gaston Chamontin avait jeté sur elle lorsqu'elle était entrée en scène, il avait senti que ses soupçons ne le trompaient pas. « C'est pour elle !» Et, presque tout de suite, à l'accent de Zite, il s'était dit aussi « C'est pour eux qu'elle joue !» Son émotion avait été si vive qu'il avait oublié son rôle de souffleur et Madame du Châtelier, toujours hésitante, autant par timidité naturelle que par mauvaise mémoire, s'était perdue dans sa réplique. Ce moment de désarroi avait rendu Joseph à la réalité de la situation et, malgré son trouble, malgré son attention à examiner les jeunes gens aussi bien qu'à suivre Zite, il s'était remis à sa tâche. Le père Lachapelle, qui jouait dans le premier tableau, était rentré dans la coulisse et, venant à Joseph avec tous les signes du contentement le plus vif, « La vois-tu? L'entends-tu » dit-il en parlant bas. « Est-elle assez charmante ?»« Fichez-moi donc la paix !» répondit Joseph exaspéré. Lachapelle n'insista pas et ne se fâcha pas. Il avait mieux à faire. Il voulait regarder, écouter Zite, qui commençait sa grande scène. Et il se dit que, sans doute, Joseph voulait, comme lui, la regarder et l'écouter sans être dérangé. Joseph connaissait trop bien l'effet que produisait toujours cette scène entre la mère et le fils pour être surpris par les applaudissements qui la coupèrent à chaque instant, mais jamais il ne les avait entendus aussi nourris ces applaudissements, aussi fréquents. Il partait à chaque mot que disait Zite et se prolongeait. Jamais il n'avait entendu autant de moucheries, de reniflements, de sanglots. À certains moments, la marche du drame se trouvait suspendue, et il n'y avait pas que le public ordinaire qui applaudissait, il voyait le fils Chamontin, le duc et le jeune homme dont il ne savait pas le nom, battre des mains. Enfin, la toile tomba, puis elle se releva au cri formidable de la salle entière, et ce fut seulement après 5 minutes de saluts et de révérences que Zite rentra dans la coulisse où son père la reçut dans ses bras. Viens sur mon cœur, tu es bien ma fille. » Après l'embrassade orgueilleuse du père, vint celle de la mère. « Où trouves-tu tout cela ?» demanda madame du Châtelier. Puis ce fut au tour de la chapelle, de Théodore, de Stanislas, de Marietta. On la serrait, on se pressait les mains, on riait, on poussait des exclamations. « C'est comédien ! C'est comédien !» répétait Théodore en renversant la tête en arrière. « Ça me rappelle mon triomphe d'Anquin à Coulommiers, » disait du Châtelier. Seul, Joseph était resté dans son coin et n'avait rien dit. Elle vint à lui, heureuse et souriante. « Es-tu content ? » dit-elle en lui tendant les deux mains. « Tu as été très belle ce soir. »«
Comme tu dis ça ? » ?»«
Oui, pourquoi as-tu joué ce soir comme tu n'avais jamais joué jusqu'à présent ?»«
Parce qu'il y a dans la salle un public qui mérite qu'on fasse de son mieux. »«
Tu l'avoues donc ? » s'écria-t-il furieusement.
« Et pourquoi ne l'avouerais-je pas ? J'ai vu dans la salle des gens qui savent ce que c'est que le théâtre, qui sont des habitués des premières représentations et non des bons bourgeois ou des paysans comme nous en avons tous les soirs. J'ai voulu leur plaire, j'ai joué pour eux, m'imaginant que je jouais devant un public parisien, et voilà. N'est-ce pas tout naturel ? Ne vas-tu pas en faire autant tout à l'heure ?
Moi ?
Tu es très bon dans le Chambord, va jusqu'au bout, livre-toi, ils t'applaudiront comme ils m'ont applaudi.
Je me moque bien des applaudissements de ces imbéciles.
Tu perds la tête.
D'amour, de jalousie, de désespoir.
Mon pauvre Joseph.
Ohé, Joseph ! Cria du Châtelier.
Mais Joseph ne bougea point, il tenait toujours la main de Zite et il serait mort plutôt que de la lâcher. La tenant par le bras, il l'avait amenée dans le coin le plus sombre du théâtre.
« Ah, si tu me plaignais du fond du cœur, » dit-il.
« Quel intérêt puis-je avoir à ne pas te parler sincèrement ?
Tu me fais mourir. »
On venait de frapper les trois coups, mais comme Zite ne paraissait qu'à la fin de ce tableau, il ne s'interrompit pas, seulement il baissa la voix pour ne pas troubler la représentation, parlant les lèvres serrées en sifflant ces mots.
« Me soutiendras-tu que ces gommeux ne sont pas venus pour toi ?
Comment seraient-ils venus pour moi, puisqu'il y a une heure, ils ne me connaissaient pas ?
On leur a parlé de toi, on leur a dit que tu étais jolie, ils sont venus voir. Et toi, au lieu de te tenir à ta place, tu te jettes à leur tête, tu te mets en frais, tu fais tout pour leur plaire. Pourquoi ?
Pour leur plaire.
Tu vois ? Tu vois ?
Est-ce que ce n'est pas notre métier de plaire à ceux qui nous écoutent et nous regardent ?
Alors pourquoi ne joues-tu pas tous les soirs comme tu as joué ce soir ?
Parce que j'ai ce soir un public comme nous n'en avons jamais eu. Tu admettras bien qu'il y a des publics qui vous disent et d'autres qui ne vous disent pas. Crois-tu donc que l'ambition de ma vie soit de jouer éternellement la comédie à Noisy ou à Chelles ? Si je la joue devant des gens intelligents et que je leur plaise, ils pourront parler de moi à leurs amis, on voudra me connaître. Alors, qui sait ?
Paris, n'est-ce pas ?
Pourquoi non ?
C'est ce vieux fou de la chapelle qui te met ses idées en tête.
Diras-tu qu'elles sont folles ?
Je dis que tu ne devrais pas songer à quitter ton père et ta mère, à nous quitter tous. Que deviendront-ils ? Que deviendrons-nous sans toi ?
Serais-je plus utile à mes parents en traînant la misère avec eux toute la vie qu'en me faisant une position qu'ils partageraient ?
La colère qui jusque-là avait grondé dans la voix de Joseph fit place à l'émotion navrée.
« C'est bien cela, dit-il, et le pressentiment que j'ai eu en regardant ces trois hommes, qu'ils apportaient le malheur avec eux, ne me trompait pas. Te voilà perdu pour moi. Si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain, car ce n'est pas seulement la comédienne qui veut un autre public, c'est la femme qui veut un autre entourage, qui cherche une autre vie, qui rêve une autre famille. » Dans les dispositions d'esprit et de cœur où tu es, on n'aura qu'un mot à dire pour que tu l'écoutes, Paris. Et tu partiras, tu nous abandonneras. Je te jure que ce n'est pas à moi seul que je pense à ce moment. C'est aussi à toi, c'est surtout à toi. Que feras-tu ? Que deviendras-tu à Paris ? Tu te plains de la misère ici, il y en a d'autres, plus dures que la misère d'argent, dans la vie que tu rêves, quand on a la fierté dans le cœur. Tu ne les vois pas en ce moment, mais quand tu les trouveras autour de toi, il sera trop tard. Ne pars pas.
Et qui parle de partir?
Moi, qui sens que tu nous échappes et qui me désespère. Que veux-tu que je devienne quand tu ne seras plus là? Tu sais bien que si je me suis engagée dans la troupe de ton père, c'est pour toi, pour te voir, pour vivre de ta vie. Tu trouveras des hommes plus brillants que moi, qui t'aimeront, cela n'est pas difficile, mais tu n'en trouveras jamais un seul qui t'aimera comme je t'aime et qui mette tout en toi comme je l'y ai mis, espérance, présent, avenir, ambition, bonheur. Ce que tu appelles misère, moi je l'appelle paradis. Et pourtant, tu ne me gâtes point. Mais je t'aime tant que pourvu que je te voie, que je t'entende, que tu me regardes, je suis heureux, l'homme le plus heureux de la terre. Et encore, n'ai-je pas besoin de tant que cela? Combien de fois, la nuit, ai-je quitté notre roulotte pour venir me coller l'oreille contre la tienne, t'écouter dormir, entendre ou ne pas entendre ta respiration, mais enfin être près de toi, contre toi, tout seul à la clarté des étoiles qui me regardent. » À ce moment, le père Lachapelle, s'approchant d'eux, les interrompit. « Zit, c'est à nous. Attention à ton effet. Allons, maman, du courage, adieu. Viens vite ou nous manquerons notre entrée. » Cependant, elle eut le temps de prendre la main de Joseph et de la lui serrer, puis elle entra en scène en suivant Lachapelle. Malgré l'épée, les décorations, les bijoux de Duchâtelier, malgré l'élégance mondaine de Théodore, ce tableau avait été assez froid, mais dès que Zit parut, les applaudissements reprirent, entrecoupés par la sonnerie des mouchoirs, et il se termina par un nouveau rappel. Quand le rideau fut baissé, l'enthousiasme des premiers sujets reprit de plus belle. « Quel effet nous avons produit ?» dit Duchâtelier, résumant d'un mot la situation. Pendant l'entracte, Marietta vendait ses pastilles dans la salle. Quand elle revint, au moment où le rideau allait se relever, elle dansait en faisant sonner la poche de son tablier, pleine de pièces de monnaie. « Tu as fait une bonne recette ?» lui demanda Joseph qui se trouva devant elle. « Je crois bien, Monsieur Chamontin m'a donné 20 francs. »